Alors peut-être, chers amis, vous êtes-vous demandé pourquoi vous vous sentiez tellement en sympathie avec la façon de s'exprimer du père Guardini. C'est à cause de qui il a été. Il n'a pas été simplement un universitaire, un grand savant. Il n'a pas simplement été de nombreuses fois vicaire en paroisse ou même chargé de paroisse, de la vie paroissiale. Il a été aumônier de jeunes pendant des années et des années. Il a été pédagogue auprès des jeunes. Il a accompagné un mouvement dans l'Église d'Allemagne qui s'appelle la Quickborn. Alors Quickborn, c'est vraiment un de ces faux amis incroyables puisque c'est un mot allemand. Et parce que Quickborn est allemand, ça signifie finalement la source vive. Alors ça pourrait signifier quelque chose comme le printemps vivifiant, mais c'est surtout la source vive. Et ce mouvement, la Quickborn, il l'a rejoint, puis il l'a accompagné pendant des décennies. Et il faut peut-être s'imaginer le père Guardini venant avec ses groupes de jeunes à la veillée le soir avec des bougies allumées ou un feu de camp. Et pendant ce temps avant la prière du soir, expliquant la messe, expliquant les signes sacrés et expliquant la pratique de la messe. Alors dans un langage extrêmement abordable, avec un souci pédagogique profond et une grande amitié avec ces jeunes adultes qui l'entouraient. En même temps, pour dire deux mots sur ce mouvement de la Quickborn, il ne faut pas imaginer quelque chose de complètement sans structure, sans hiérarchie, une équipe de copains. La Quickborn, dans la pensée du père Guardini, finalement, elle s'articulait autour des trois conseils évangéliques: l'obéissance, la chasteté et la pauvreté. Et un des éléments marquants aussi de ce mouvement de jeunesse des années 1920, 1910-1920 en Allemagne, c'était l'abstinence totale d'alcool et de tabac. En disant, cette abstinence-là, c'est le premier pas pour anoblir la vie naturelle de la personne humaine. Donc c'est dans ce contexte à la fois un peu ascétique, et en même temps plein de vigueur, plein de jeunesse, plein de joie, plein de chant, plein d'amitié, que Romano Guardini écrit ou n'écrit pas ces pages que nous avons maintenant et qui nous sont une espèce de préparation et d'initiation à la messe. En méditant sur cet aspect de la vie de Romano Guardini, on peut chercher à qui il nous fait penser. Qui, parmi les chrétiens connus, a eu une vie qui ressemble un peu à celle de Romano Guardini, et nous trouvons la figure de Saint Jean-Paul II. Il y a finalement une proximité, cette dimension paroissiale, en même temps d'universitaire, de chercheur, de philosophe reconnu, de savant reconnu, en même temps philosophe, théologien, psychologue, et puis cet accompagnement de la jeunesse. On a tous les photos de Jean-Paul II plus jeune, faisant du kayak ou faisant de l'alpinisme, entouré de jeunes avec des feux de camp. Et d'ailleurs, ensuite, quand il sera élu pape, il recevra à Castel Gandolfo ces jeunes devenus un tout petit peu moins jeunes pour des soirées festives avec la figure du père, du maître, de l'enseignement qui est là au milieu et qui profite de ce temps d'amitié pour donner un enseignement très profond, souvent mystique et en même temps très concret pour faire que tous ces jeunes soient fortifiés et confirmés dans la foi. Et tout cela nous fait bien sûr penser à la Journée mondiale de la jeunesse et nous fait comprendre comment il peut y avoir une espèce de parenté d'âme entre quelqu'un comme Romano Guardini et Saint Jean-Paul II. Et au final, comment l'admiration presque sans borne de Joseph Ratzinger pour Jean-Paul II, peut se comprendre à cause de cette proximité de figure. Guardini, Jean-Paul II, qui s'occupent de la jeunesse, qui sont des pédagogues, qui sont aussi des amoureux du théâtre, des amoureux du chant, des amoureux de la liturgie célébrée avec le maximum d'amour et de cœur. Peut-être est-ce une réponse à cette impression que vous avez que la façon de s'exprimer du père Guardini est en même temps limpide, profonde, chaleureuse et fraternelle. Alors si vous le voulez bien, mettons-nous autour du feu, dans le feu de camp, et écoutons le maître continuer à nous parler du silence. Le silence, il essaye de nous expliquer qu'il ne doit pas être une interruption de la parole et des chants. Que le chant, lorsqu'il devient continuel, peut être exaspérant pendant la liturgie. De la même manière, les instruments de musique, comme l'orgue, s'ils se font entendre constamment et s'ils vont comme pourchasser le silence jusque dans les derniers recoins où il aurait pu se réfugier pour l'en expulser, eh bien tout cela finit par être exaspérant. Et le silence a le droit à sa place dans la liturgie et il n'est pas qu'une simple parenthèse dans la liturgie. Le silence est habité par la présence de Dieu, et c'est ce silence-là dont nous parle le père Guardini, et au sujet duquel il veut essayer de nous dire comment y parvenir. Il continue. Le silence ne doit pas seulement être un silence extérieur. Le silence extérieur, c'est ce dont nous parlions la semaine dernière, lorsque personne ne parle, ni ne remue, ni ne produit ces bruits du quotidien qui sont amplifiés par l'architecture de l'Église. Lorsque personne ne parle ni ne me remue, il peut manquer encore intérieurement de silence. Nous savons, le silence véritable, celui qui devient un jour silence liturgique, silence sacré, implique que les pensées, les sentiments, ce que nous appelons le cœur, trouve le repos, trouve une forme de tranquillité et de sérénité. Le royaume essentiel du silence est un royaume intérieur, un royaume où le silence doit s'approfondir toujours davantage, où il est impossible de fixer un repère, puisque les horizons du monde intérieur reculent sans fin. Bien sûr, Romano Guardini est un apôtre du monde intérieur. Il est un ami de saint Augustin, comme il est un ami de Platon. Et le monde intérieur, c'est le monde qui le fascine le plus. Et il nous rappelle qu'il n'y a pas de limite à notre monde intérieur, qu'il y a une forme d'infini, une forme d'infini comme dans l'image de l'océan ou du désert, où le silence va pouvoir régner. Alors, avec cette conviction que le silence est voulu par Dieu, nous pouvons essayer de créer ce silence intérieur. Et si l'on essaye, on se rend compte que nous n'y arrivons pas. Ou en tout cas que cela ne va pas d'un seul coup. Il ne suffit pas de vouloir le silence, il faut s'y exercer, il faut un entraînement. Et pour ce faire, les instants qui précèdent la célébration de la messe à l'église sont des moments privilégiés. C'est une idée qu'il avait déjà essayé de défendre, et de défendre avec beaucoup de vigueur dans les pages qui précèdent. De là, une autre exigence pratico-pratique, basique. Il faut arriver assez tôt pour pouvoir profiter de ces moments de préparation. On voit là encore une fois celui qui anime, qui accompagne des groupes de jeunes et qui essaye de faire comprendre qu'on ne pourra rien faire de bon si tous n'arrivent pas en avance. Pas seulement à l'heure, mais en avance. Arriver assez tôt pour profiter des moments de préparation. Et si on arrive en avance, il ne faut pas, sans aucune raison, regarder à droite et à gauche, enchaîner des pensées inutiles, pourquoi pas feuilleter le livre de prière qu'on a emporté avec nous, feuilleter pour le plaisir de feuilleter. Non, il faut mettre à profit ce temps gagné, ce temps en plus de la célébration, pour tenter de se recueillir et se mettre dans un état intérieur de repos. On ferait mieux encore de se recueillir déjà un peu sur le chemin de l'Église. Là, on est plus dans le cadre de la messe du dimanche, où il y a un chemin pour la majorité d'entre nous, il y a un chemin physique à parcourir pour aller jusqu'au bâtiment Église. Puisqu'on se rend à la célébration de la liturgie, on peut considérer que la route elle-même fait déjà partie, à sa manière, de la messe. Que la route est une introduction à ce qui va suivre. Donc on voit qu'il ne cesse de reculer le début de la préparation à la messe. Et il franchit un pas de plus. J'irais même jusqu'à dire, si mon auditeur veut bien me suivre jusque-là, que la préparation commence la veille. Un sens liturgique éclairé nous a rappelé que le samedi soir appartient au dimanche. On dit qu'à partir de 17h, la 11e heure, l'heure finalement des vêpres, à partir de la 11e heure, nous sommes déjà dans le dimanche. Eh bien, on pourrait chercher à introduire dans la veillée du samedi soir un temps de méditation silencieuse, peut-être avec une lecture du dimanche. Et si on faisait cela, on sentirait très rapidement un effet sur tout le dimanche. Voilà. Une lecture silencieuse, une méditation silencieuse, à partir certainement d'un texte de la liturgie du lendemain, mais qui déjà est une manière de remplir le silence. Donc, si on se laisse conduire, finalement, il nous emmène très loin, le cher Père Gordini. Et il nous rappelle que les choses précieuses se préparent longuement. Jusqu'à présent, je ne vous ai dit au sujet du silence que ce qui ne doit pas être. Le silence n'est ni parole, ni bruit. Mais le silence ne signifie pas seulement que quelque chose manque. Le silence ne doit pas être un manque. Le silence n'est pas un vide entre des moments de discours et des moments de bruit. Il y insiste. Hein. Le silence est lui-même quelque chose de positif. Le silence est un don de Dieu. Nous devons ressentir le silence de cette manière-là. Ce silence-là peut se produire au cours d'une conférence, d'une récitation de prière, d'une cérémonie publique. Alors, il y a une pause. Mais ce silence est menacé. Et nous remarquons tous que la menace se transforme rapidement en agression avec quelqu'un qui se met à tousser ou à se moucher ou à faire du bruit d'une manière ou d'une autre. Le silence, c'est comme s'il avait donné l'impression d'être un gouffre que cette personne ou ces personnes ont essayé de combler comme ils ont pu en produisant n'importe quel bruit. Un gouffre. Au lieu d'être ami, le silence apparaîtrait comme un ennemi. C'est que pour cette personne, le silence n'était certainement qu'une réalité négative, un vide, et que ce vide était gênant parce qu'il produisait un sentiment de désordre et d'inconfort. Il faut donc demander au Seigneur lui-même, inlassablement, de changer notre regard sur le silence et de découvrir dans sa lumière comment le silence est quelque chose de plein et de riche. Comment le silence est le calme de la vie intérieure. Il est la profondeur du courant caché. Il est présence recueillie, ouverture, disponibilité. Il n'est pas sourd ou inerte. Il n'a rien d'un fardeau improductif. S'il est authentique, le silence est un éveil plein d'attention et de disponibilité. Ainsi, attention, disponibilité, éveil, c'est le silence devant Dieu. La définition du silence sacré, c'est un silence devant Dieu. Non pas le silence de Dieu, parce que cela c'est une réalité spirituelle compliquée, qui appartient aux épreuves de la vie spirituelle, le silence de Dieu. C'est le silence devant Dieu. Mais encore une fois, pas un silence glacé, un silence chaleureux, un silence amical, qui est provoqué par l'être même de Dieu. Bien sûr, notre foi est que Dieu se révèle, Dieu parle, mais nous savons bien que la tranquillité de la Sainte Trinité ressemble bien à un silence. C'est dans un silence éternel que le Père prononce une parole unique qui est son Verbe consubstantiel. Le silence, comme signe sacré, comme moyen de la liturgie, nous allons le circonscrire dans l'Église et nous redire encore une fois ce qu'est une Église. Ce qu'est une Église, c'est une construction, des murs, une voûte, des colonnes, finalement un espace. Mais nous le savons bien, cette église de pierre n'est qu'une partie de ce que le mot église signifie réellement. L'église, c'est le corps mystique du Seigneur Jésus. Ainsi, lorsque nous disons que la messe va s'accomplir dans l'église, toujours, nous cherchons à dire les deux choses. Et nous cherchons à parler de cette communauté sainte dans laquelle s'accomplit l'action de la messe. Et l'action s'accomplit dans la communauté. Le Christ agit, le Christ opère, et la liturgie, c'est le moment où le Christ opère dans la communauté. C'est la communauté et ce n'est pas une assistance. Ce n'est les gens de l'assistance. Non, les gens de l'assistance, c'est une description très très externe de ce qui se passe pendant la messe. Il ne suffit pas qu'il y ait des gens qui rentrent dans l'église, qui prennent place, debout, à genoux, assis, sur des bancs, sur des chaises, pour qu'il y ait une communauté. Non, ce sont simplement des espaces qui sont occupés par des croyants, plus ou moins croyants. Mais ce que le silence sacré va permettre, c'est la naissance de la communauté lorsque les personnes deviennent intérieurement présentes à Dieu et entrent en contact les unes avec les autres pour rencontrer Dieu. Lorsqu'elles entrent dans un espace particulier qui est l'espace de l'esprit. Lorsqu'il y a une entreprise commune pour s'ouvrir à Dieu et former un tel espace pour Dieu. Alors la communauté se met à exister. Et l'action sacrée va pouvoir s'accomplir. Eh bien, Le père Guardini affirme, tout cela ne peut se faire qu'en silence. Affirmation que peut-être nous pourrions contester, parce que nous ne sommes pas dans le domaine du dogme, nous sommes dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine de l'agir liturgique et spirituel, et il n'y a pas une pensée unique. Mais avant de contester, il faut quand même que nous puissions déployer beaucoup d'arguments. Alors, dans un premier temps, il est certainement très sage d'accueillir l'enseignement. Tout cela, la création de la communauté qui va recevoir l'action du Christ, ne peut se faire qu'en silence. C'est à partir du silence que se construit le vrai sanctuaire de Dieu. Les églises de pierre peuvent tomber en ruine, être détruites. Tout va dépendre de la capacité des croyants à former une communauté où l'action de Dieu va s'opérer. Il s'agit en fait d'une voûte invisible qui doit se dresser, d'une voûte toute spirituelle. Et il faut découvrir les forces capables de porter cette voûte et de lui donner une croissance. Parce que la grande différence entre le bâtiment de pierre et le bâtiment vivant, c'est que le bâtiment vivant est capable de grandir et de grandir tout le temps. Il faut prendre le silence au sérieux. Les raisons ne manquent pas de commencer nos méditations sur la messe, sur la sainte liturgie, par le silence. Si quelqu'un me demandait où commence la vie liturgique, je répondrais, la vie liturgique commence avec l'apprentissage du silence. Sans lui, tout manque de sérieux, tout reste vain. Avec le silence, nous ne nous engageons pas dans la voie de la fantaisie ou de l'esthétisme. Voilà. Deux ennemis de la prière liturgique. La fantaisie, le délire, si vous voulez, ou l'esthétisme, la recherche du beau pour le beau, la recherche de la perfection, de l'exécution, sans mettre de cœur, sans mettre Dieu surtout. Une espèce de satisfaction personnelle, parce qu'on est arrivé à une excellence dans l'exécution de l'art liturgique. Mais le Seigneur, on ne l'a pas rencontré. On est ressorti de l'action liturgique exactement comme on y était entré, peut-être avec simplement un peu plus d'orgueil spirituel, un peu plus de suffisance intellectuelle ou esthétique. Si quelqu'un se mettait à comprendre en esthète le silence liturgique, tout serait faussé. Il pourrait bien y avoir un très important silence pendant la liturgie, ce serait un silence faux, qui porterait à faux. Ce qui nous préoccupe dans nos méditations, c'est une chose très sérieuse et très importante. Une chose aussi négligée, c'est que le silence est la condition première de toute action sacrée. Le silence sacré est la condition première de toute action sacrée. Le silence est la parole. Parce que la liturgie est quelque chose de vivant, elle n'est pas monopolaire, elle n'est pas mono-idéique, il n'y a pas qu'une chose dans la liturgie. Et la liturgie n'est pas l'adoration, n'est pas la contemplation, elle va être ce mouvement divin entre le silence et la parole. Le silence devant Dieu. Oui, seul le silence peut édifier ce qui va porter la célébration de la messe, c'est-à-dire la communauté liturgique remplie de la présence du Saint-Esprit. Sans exagérer, on peut affirmer que faire du silence est le premier acte du service sacré. Mais il faut aller un peu plus loin. Le silence implique une relation avec l'acte de parler. avec la parole elle-même. Le silence est un serviteur. Et le silence permet l'irruption de la parole, qui est non seulement la parole que nous entendons, mais nous savons bien qui est le verbe fait chair. La parole est pleine de mystère. Elle est si fugitive qu'elle se perd en un instant. En même temps, nous pouvons nous souvenir dans notre vie personnelle que la parole prononcée peut être tellement puissante qu'elle peut marquer notre destin et peut décider du sens de toute une vie. Bien sûr, tout proche du 8 décembre, nous sommes inlassablement émerveillés du fiat, du oui de la Très Sainte Vierge Marie. Quand on parle d'une parole qui marque un destin et qui décide du sens de toute une vie, voilà une parole qui marque le destin de toute la création et qui décide du sens de toute vie. Mais pensons aussi à ces paroles de l'échange des consentements ou les paroles du oui pour les ordinations ou pour la profession religieuse. Il y a ces paroles qui engagent toute une destinée. Ainsi, comprise comme cela, la parole est un produit délicat. Ce n'est pas un bruit qui résonne dans l'espace. Elle contient quelque chose d'éternel parce que elle a ce privilège inouï de pouvoir contenir la vérité. La vérité devient parole et alors nous sommes transformés. Plus proche de nous, nous voyons bien que notre parole vient de l'intérieur de nous. Comme un son, elle vient des organes de notre corps, mais comme une expression, elle vient de mon esprit et de mon cœur. Cette parole-là, toute simple, quotidienne, elle est l'œuvre de la personne humaine. Mais elle est aussi quelque chose de plus profond que la personne humaine. Quelque chose que la personne ne peut pas créer. Quelque chose que je vais trouver tout fait, que je vais apprendre et que même je vais pouvoir utiliser. La vérité n'est pas créée par moi, elle est là avant moi. Et je vais à sa recherche, je me laisse aussi séduire par elle, et avec beaucoup de bonne volonté et la grâce du Seigneur, je me laisse envahir par la lumière de la vérité, qui finalement est la lumière de Dieu. Et lorsque la lumière de la vérité est suffisamment forte en moi, la parole que je vais prononcer, qui sort du tréfonds de mon être, est éclairée par la vérité et contient, enveloppe la vérité divine. Concrètement, les mots de la parole, il a fallu que je les apprenne. Il a fallu que j'apprenne cette unité tellement complexe, tellement étonnante aussi, qui s'appelle le langage, un ensemble de mots. Le langage, c'est cette toile sur laquelle je peux peindre les différentes expressions de la vérité que j'ai reconnues, que j'ai accueillies, et qui vont être comme un royaume. Le langage va être comme un royaume dans lequel la personne va pouvoir évoluer pour exprimer ce qu'elle a de plus essentiel à exprimer. Mais nous sommes après le péché originel. Nous ne sommes pas dans le monde tel qu'il est sorti des mains du Créateur, et notre parole peut être plus ou moins pleine de vie. Pas seulement de vérité, mais de vie. Et notre vie à nous connaît des niveaux d'existence plus ou moins profonds. Ainsi, le côté le plus superficiel, ça va être une simple communication d'une nouvelle banale ou d'une demande très banale de la vie quotidienne. Je peux simplement demander qu'on m'apporte un peu d'eau pour me laver les mains. Ou je peux simplement dire l'horaire de la messe la semaine prochaine ou le lieu de la messe la semaine prochaine. On est dans un niveau très peu profond de la parole. Cette communication peut d'ailleurs être faite de manière artificielle. On peut utiliser l'écriture ou la machine pour communiquer ce genre de choses. Pour parler à Dieu, la machine, évidemment, ne peut pas être adéquate. Ces sons mécaniques prennent un peu de sens si ils cherchent à reproduire ma propre parole vivante. Cette couche est très extérieure, elle est mécanique, elle ne peut jamais être l'essentiel. On se trouve devant l'essentiel lorsque l'intérieur de ma personne est engagé dans les sons que je vais prononcer. La pensée qui est en moi va se transformer en parole, et là j'arrive à un niveau plus élevé de vie. Il y a la pensée d'abord, ce qui se passe à l'intérieur, et ensuite cette pensée peut être exprimée. Et plus je vais connaître la vérité, mieux je vais la dire et plus riche va être ma parole. Et cette parole-là, je peux l'utiliser pour parler directement au Seigneur. Mais, et nous retrouvons notre thème précédent, pour connaître la vérité de cette manière-là, je dois commencer par être silencieux. Et d'une manière similaire, pour commencer à connaître la vérité de Dieu, la liturgie doit commencer par être silencieuse. Et là, dans la façon de s'exprimer du Père Guardini, arrive un mot façonné, très bien choisi, parce qu'il ne veut pas être méchant ou agressif d'entrée de jeu. Il choisit de nous présenter la figure du parleur. Voilà, le parleur et le parleur continuel. Alors c'est en apparence neutre, mais nous allons comprendre très vite que ce personnage qui s'appelle le parleur n'est vraiment pas très sympathique. Il nous dit, le parleur continuel n'atteint aucune vérité. Alors évidemment, celui qui passe toute une émission à la radio à parler se sent tout petit lorsqu'il lit ces phrases du Père Guardini. Le parleur continuel n'atteint aucune vérité. C'est d'ailleurs trop dire, car chacun connaît des vérités, mais le parleur, lui, constate des choses valables, des choses qui existent, il tire des conséquences, il fait des plans, mais jamais cela n'est la vérité proprement dite. La vérité va pouvoir éclore lorsque l'éternel peut enfin se dévoiler. Eh bien, une telle découverte de l'éternel, de l'infini, du divin, exige un espace intérieur, une liberté intérieure, une pure présence qui ne se développe que dans le silence. Celui qu'il appelle le parleur, donc celui qui parle toujours, ne vient jamais à soi. Ne vous inquiétez pas, dans la suite du texte, le Père Grandi va parler du muet. Alors le muet, lui aussi, on va découvrir qu'il est terrible. Le parleur est terrible, mais le muet ne vaut pas mieux. Celui qui parle toujours ne vient jamais à soi. Et celui qui ne vient jamais à soi, qui ne descend jamais à l'intérieur de lui-même, ne peut pas voir la vérité. La vérité et la parole, dans ces cas-là de véritable, dépendent de ce que la personne humaine soit capable, à l'heure venue, de se taire et de se taire longuement. Comment la vérité pourrait-elle venir jusqu'à nous si nous ne sommes pas capables de nous taire longuement? Alors qu'en est-il de cet intérieur qui doit se taire? Il faut que le sentiment arrête de s'engouffrer en permanence dans l'expression verbale. Le cœur ne peut pas vivre si il s'exprime tout le temps. S'il ne sait pas demeurer auprès de lui-même, le cœur demeure auprès de lui-même dans le secret et dans le silence, il s'épuise. Il en sera du cœur profond comme d'un champ qu'on semerait tous les ans avec du blé, avec le même blé, il va s'épuiser en peu de temps. Il faut arriver à limiter l'expression intempestive du sentiment pour se mettre à vivre. Donc, on voit bien la critique de la sentimentalité, du romantisme dans l'approche de la liturgie. La parole ne prend son importance que lorsqu'elle sort du silence. Cela, nous le savons tous. Tout va être une question de proportion. La parole sainte, la parole vivante, va avoir besoin d'une certaine quantité de silence. Et voici la suite. La réciproque est vraie. Pour que le silence ait sa fécondité, il faut que la parole s'exprime dans une parole communiquée. Donc, une vérité intérieure qui ne se communique jamais, sauf vocation très exceptionnelle, risque de mourir elle-même. Il y a des choses, bien sûr, qui n'ont pas besoin d'être dites, même qui ne doivent pas être dites. Il y a des choses qui expriment le plus profond de notre pensée. Il suffit à certaines de ces choses de rester dans la parole intérieure, la parole qui demeure au plus profond de nous-mêmes. Mais pour le reste, pour ce qui n'est pas de l'ordre du mystique intime, si vous voulez, il faut que la parole puisse s'extérioriser. Et bien de même qu'il existe une caricature de la parole, qu'en français nous allons appeler la parlotte, il existe une affreuse caricature du silence que nous appellerons le mutisme. Être muet est aussi grave que d'être bavard. Une liturgie totalement muette serait aussi peu liturgique qu'une liturgie bavarde. Et Dieu sait que le père Guardini n'aime pas le bavardage dans la liturgie. Pour lui, une liturgie bavarde, c'est vraiment un monstre spirituel. Avec le mutisme, le silence se voit privé d'issue. Et le silence va se durcir, il va s'épaissir. Il va entourer l'homme comme d'un cachot. La parole doit briser ce cachot. Elle doit forcer l'intérieur à se produire en plein jour. La parole va permettre à l'homme de se justifier. La parole va placer la personne humaine parmi les autres personnes humaines. Elle va me faire rentrer dans la communauté et dans l'histoire. Au sens le plus réel du terme, et non pas simplement superficiel, cette parole-là libère. La parole brise le cachot. Ainsi, le silence et la parole vont ensemble, l'un suppose l'autre. Ensemble, ils forment une totalité où la personne peut vivre. Et c'est une très belle découverte de s'apercevoir qu'il n'y a pas de mots pour décider pour désigner cette merveille, cette alliance intime de la parole et du silence. Nous savons spontanément que cette merveille habite en nous. Il nous reste à la laisser être évangélisée par le Saint-Esprit, à laisser le Saint-Esprit lui-même, comme nous le demandons dans la séquence que nous avons entendu comme générique de cette émission, ou dans le Veni Creator, que l'Esprit Saint lui-même nous apprenne la juste dose de silence et de parole dans la liturgie, dans notre prière personnelle, comme dans toute notre vie chrétienne. C'est auprès de la Vierge Marie, la Sainte Silencieuse, et en même temps celle qui a donné le Verbe au monde, c'est auprès de la Vierge Marie que nous nous plaçons pour demander au Saint-Esprit Consolateur cette grâce des grâces.